Bonjour à tous, merci à M. Fournier de m'avoir invité à ce colloque et merci aussi à Lorelai van der Heijden et Antonio Ricciardetto pour toute cette organisation. Alors, je vais vous parler du lion dans les hiéroglyphica de Rapallo. Le lion a toujours été un animal bien présent dans l'Égypte ancienne. Il est vécu à l'état sauvage jusqu'à ce que la désertification du pays ne le pousse à s'en éloigner. Pour autant, il ne disparut pas des mentalités et conserva un statut privilégié. Sa présence est bien marquée dans la langue égyptienne. En effet, le lion est distingué et désigné par deux mots. Le mot rou, onomatopée pour rou, qui s'écrit avec un lion couché, vous pouvez le voir là-haut, et qui est un terme ancien. Autre mot, le mot maï, qui tend à remplacer le précédent, qui se prononçait moui, comme on le sait grâce au copte. Merci à Lorelai van der Heijden pour cette précision. Les déterminatifs pouvaient être ceux du lion debout, avec la queue levée ou avec la queue baissée, le déterminatif étant choisi en fonction de la place restante dans le cadra. Notons aussi que le lion couché pouvait désigner la lettre L. Les Égyptiens utilisaient de nombreux signes représentant le félin en entier ou une partie de l'animal, comme vous pouvez le constater ici, avec quelques exemples de signes de lion dans les hiéroglyphes. Le lion intervient à 9 reprises dans les hiéroglyphica de Rapallo. Quelles sont les informations qu'Apollon distille derrière ces interprétations? Y a-t-il une réalité égyptienne derrière? Autant de questions qu'on peut se poser. Ces informations font écho à des sources grecques et latines antérieures, de nature variée, qui sont le reflet de l'intérêt qu'a toujours suscité l'Égypte de l'Antiquité. Nous essaierons donc de voir ce qu'Apollon nous permet de comprendre sur la symbolique du lion égyptien et sur l'état des connaissances sur son éthologie. Je vais m'appuyer sur les traductions proposées par M. Van de Waal et M. Vergotte dans les Chroniques d'Égypte numéro 32 et 36. Alors, voyons d'abord ce qu'il en est du lien avec le soleil. On en a déjà parlé dans la communication de Nicolas Zito. Voici l'extrait, donc c'est livre 1, chapitre 17. Comment il représente l'ardeur? Donc, vous avez sur l'exemplier, vous avez toutes les citations de Rapallon et aussi les citations que je ne vais pas relire aux auteurs grecs et romains. Deuxième occurrence qui mentionne le lion en rapport avec le soleil, c'est quand il parle de la crue du Nil. Là aussi, on en a déjà parlé. Donc, c'est au chapitre 1, 21. Ce lien entre le lion et le soleil est très présent dans le ciel, comme nous l'avons déjà vu. Nous savons que les Égyptiens avaient identifié la constellation du lion. Par exemple, on peut le constater avec la représentation sur le plafond de la tombe de Séti Ier, comme vous pouvez le voir ici, avec la constellation du lion. Et on pense aussi au fameux plafond de la chapelle dédiée à Osiris dans le temple de Dendera, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qu'Apollon a peut-être pu admirer. Les sources antérieures sont nombreuses à aborder ce thème. En effet, les anciens mentionnent ce lien entre la constellation du lion et la crue du Nil à plusieurs reprises. Vous pouvez le voir sur l'exemplier. Nous en trouvons des exemples chez Hélien, Plutarque, Pline ou Macrobe. Ils notent que la crue du Nil était la plus abondante lorsque le soleil traverse la constellation du lion pendant le solstice d'été. Ce rapport entre le lion et la crue peut nous faire penser aussi à une version du mythe de la vache céleste où la lionne sanguinaire aurait plongé dans les eaux du Nil et en serait ressortie apaisée. Ce moment coïnciderait avec la montée de la crue du Nil. Apollon fait aussi mention de caniveaux et conduits de fontaines en forme de lion. Effectivement, certains temples égyptiens dès l'Ancien Empire comportaient des sortes de lions gargouilles, voilà, dont l'eau de puits s'écoulait entre les pattes. Leur rôle était bien défini, pour preuve certaines expressions qu'on trouvait à proximité de ces lions gargouilles, sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce que, faute de temps. Une hypothèse intéressante a été émise à ce sujet, comme me l'a fait remarquer Antonio Ricciardetto, qui relèverait de l'éthologie du lion. En effet, les lions gargouillent pourraient faire référence à un comportement du lion, qui, le soir, sort de sa tanière pour étancher sa soif. La dernière phrase du chapitre 21, comme on l'a déjà vu auparavant, est problématique. Ce passage est souvent omis dans les manuscrits ou sujet à des interprétations fantaisistes. Pour ce qui est du vin lié à la couleur des eaux du Nil, on pense à Épiphane avec son interprétation. Et pour Sbordone, ça serait en lien avec des pressoirs, avec des robinets avec une tête de lion. En effet, c'est intéressant, on pense effectivement à une divinité, qui est la divinité Chesmou ou Chesemou, qui est la divinité des pressoirs et qui pouvait prendre les traits d'un lion. Autre fait intéressant, on peut penser aussi au mythe de la vache céleste, où on a une version qui dit que Thoth, pour apaiser la lionne sanguinaire, verse du vin dans les eaux du Nil, la lionne boit et s'en trouve apaisée. Donc quand on connaît le lien entre le lion et la crue du Nil, ce fait est aussi intéressant. De fait, l'apparence même du lion et sa nature ardente permettent ce rapprochement avec l'astre solaire. En effet, il ressemble au soleil par sa crinière, son regard enflammé et la couleur même de son pelage. Pour Élien, chez les Égyptiens, ils associent le lion à Héphaïstos, équivalent chez les Grecs de Ra. C'est une erreur d'interprétation de la part d'Élien. En effet, Héphaïstos était plutôt à rapprocher de Ptah, patron des artisans, alors qu'Apollon était plutôt celui qu'ils identifiaient à Amon-Ra. Or, Apollon fait mention de lion sur les trônes d'Horus. Effectivement, le lion est bien présent sur le mobilier égyptien et particulièrement sur les trônes de Pharaon, comme on peut le voir ici sous le trône de Khéphren avec un joli petit lion. On pense aussi à des trônes votifs, souvent en bronze, dont le trône était flanqué par deux lions. Certains ont même été retrouvés à Léontopolis, donc la ville de Lyon, de façon assez tardive. Et on peut penser aussi au magnifique trône de Toutankhamon avec ses deux têtes de lion. Pour ce qui est des caractéristiques du lion, la première qui nous vient à l'esprit et sur laquelle au rappelant insiste, c'est celle de la force et du courage. Nous l'avons vu au tout début en 1.17. Il représente l'ardeur. Pour représenter l'ardeur, il peigne un lion. On peut le voir ici aussi au livre 1, chapitre 18. Pour représenter la vigueur, ils écrivent la partie antérieure du lion. Élien mentionne l'importance de la partie antérieure du lion en l'associant au feu. Les Égyptiens utilisaient le protomède de lion comme signe pour le mot « hat », qui signifie le chef, c'est un exemple, ou dans le titre du gouverneur. Le signe du protomède de lion était souvent de couleur verte, qui chez les Égyptiens connote la vigueur. Toutefois, ce serait plutôt l'emploi de l'arrière-train du lion « p » qui se trouve dans le mot « petit » qui serait à rapprocher de la vaillance du lion. Or, Apollon fait référence à toute une tradition bien connue au sujet des valeurs du lion, et qui perdure encore. L'ardeur est aussi synonyme de courage chez le lion. Ce sont ses qualités qui favorisa son association avec Pharaon. Le lion, souverain de tous les animaux, comme on le lit sur une inscription à Edfou, est donc le pendant de Pharaon, souverain des hommes. Dans les inscriptions égyptiennes, le lion est souvent employé comme symbole de force et de courage, particulièrement en parlant du roi. Par exemple, dans les expressions « lion grande puissance » ou « à la grande vaillance ». Jean Yoyotte, dans le bestiaire des pharaons, explique que ces expressions étaient particulièrement fréquentes sous les Toutmosides et sous les Ramessides et servaient à valoriser les qualités guerrières du roi. L'ardeur et la force sont autant de qualités qui permettent cette association lion-roi. L'art égyptien en est le reflet, on l'a vu avec les trônes. On peut penser aussi à ces représentations où un pharaon est accompagné d'un lion. On pense donc à cette représentation où Ramsès II est accompagné d'un lion sous son char. Donc ça fait mention à la bataille de Kadesh. On pense aussi à des représentations de Ramsès III à Medinet Abou. Sur ces scènes, le lion n'est probablement que symbolique. Il sert à renforcer la puissance de Pharaon. Même si des vestiges attestent que des lions aient pu être élevés en captivité, C'était probablement dans des cadres plus particuliers, comme celui de ménagerie ou de parc de chasse, ou encore en tant qu'animal sacré. Autre caractéristique dont on a déjà parlé, c'est l'état de veille du lion. Donc au livre 1, chapitre 19, où, lorsqu'ils écrivent « Celui qui veille », ils représentent des lions. Horapollon reprend ici un trait que les Égyptiens connaissaient bien. On en trouve des traces dans les inscriptions où il est dit que le lion ne dort jamais. Cela se retrouve aussi chez plusieurs auteurs. Plutarque qui fait référence à cela, comme nous l'avons vu quand il parle des lionceaux qui naissent avec les yeux ouverts, et que, en mentionnant aussi que le lion ne dort que très peu. Dans le Physiologos, il est dit « Quand le lion dort dans son repaire, ses yeux sont en éveil ». Alors ici, c'est un contexte radicalement différent, parce que cela sert à comparer le lion avec le lion spirituel qu'est le Christ. Selon Horapollon, cet état de veille permanent explique que les Égyptiens aient attribué un rôle de gardien au lion. De là viendrait que les serrures de temple étaient ornées de têtes de félins. Bon, voici un exemple. Constant de Witte, dans Le rôle et le sens du lion, pense que ces fameux lions verrous sont à mettre en lien avec une racine ici, qui signifie repousser. À époque ptolémaïque, on utilise même un mot qui signifie barrière mobile en forme de lion. On voit le fauve aussi souvent sur les linteaux de portes à l'entrée de temple. Il était en effet préposé à la garde des portes. On pense aussi au rôle joué par les sphinx, et on sait aussi, il faut mentionner aussi ce rôle de gardien auprès des défunts, comme on le voit sur les lits funéraires. C'était fréquemment représenté avec des têtes de loup. On pense aussi, dans ce rôle de gardien, au fameux deux lions routis, qui étaient gardiens de l'entrée et de la sortie de l'au-delà, d'hier et demain. Jean Yoyotte compare le lion au taureau de l'époque archaïque qui veille sur les portes est et ouest de l'enfer nocturne. Il est le gardien des espaces sacrés. Sa vigilance est à rapprocher de sa capacité à rester longtemps à l'affût. Ce trait se retrouve aussi dans les tentatives des scribes d'expliquer l'origine du mot « lion » qui se dit « maï ». En effet, le mot « voir » se dit « ma » qui a donné « ma ». Jean Yoyotte explique que dès l'Ancien Empire, le mot « lion » comporte le signe de l'œil, ce qui irait dans ce sens. En grec, les grammairiens rapprochent le mot « léon » du mot « lao », qui signifie « voir », comme l'explique Manéthon. Vous avez l'extrait dans l'exemple. Autre caractéristique du lion, il suscite la crainte. Horapollon en parle au chapitre 20 du livre 1. Les expressions ne manquent pas dans la langue égyptienne, et chez les auteurs anciens, pour décrire la peur que provoque le lion. Les Égyptiens avaient noté la puissance du rugissement du lion, ainsi que la violence de ses mâchoires et de ses griffes. On trouve des inscriptions particulièrement intéressantes sur les lions-gargouilles à ce sujet. En effet, outre leur rôle de canalisation pour évacuer l'eau de pluie, les lions-gargouilles devaient servir de protecteurs. Ils se devaient donc d'avoir un effet dissuasif auprès de ses ennemis, d'où les inscriptions concernant sa violence et sa voracité. Horapollon a peut-être eu accès à cette documentation tardive. La peur est un sentiment qui est de tout temps associé au lion chez les anciens. Il l'avait fortement bien noté. Ce qui caractérise aussi le félin, c'est cette ambivalence omniprésente chez les Égyptiens. À la fois animal protecteur et dangereux, il suscite autant l'admiration que la crainte. Cela est manifeste dans les attributions des divinités léonines. Par exemple, Sermet est la déesse guérisseuse, et son fils Maès, c'est la déesse guérisseuse, mais aussi maîtresse des fléaux, et son fils Maès est un dieu guerrier protecteur qui contrôle les tempêtes. Élien confirme cette idée lorsqu'il explique que les prêtres égyptiens qui ont la charge de nourrir les lions sacrés doivent réciter une formule magique pour éviter que les lions ne les envoûtent. Il dit: lorsqu'ils mangent, ils sont accompagnés d'un chant en langue égyptienne. Le sujet du chant est « Ne jetez un sort à aucun de ceux qui vous regardent » et il semblerait que la chanson soit l'équivalent d'une amulette. Fin de citation. Le lion est aussi un animal dangereux, c'est l'animal du désert. Il existe de nombreuses formules magiques pour repousser le lion. Par exemple, dans le papyrus Aris, on peut lire « Viens à moi, ô maître des dieux, et chasse, ô maître des dieux, et chasse loin de moi tous les lions dans le désert. » On pense aussi à ces stèles représentant Horus piétinant les crocodiles, et tenant, piétinant deux crocodiles et tenant dans ses mains les animaux nuisibles, dont le lion, comme on peut le voir sur la droite. En plus de ces informations sur les caractéristiques du lion, Horapollon nous donne des informations un peu plus zoologiques. Nous allons parler maintenant de ce qu'on apprend de l'éthologie du lion. Tout d'abord, la reproduction. Donc on passe au livre 2, chapitre 82. Ici, il est question de la lionne. Pline, en bon disciple d'Aristote, reprend cette idée. Toutefois, on sait qu'Aristote avait démenti cette affirmation qui vient à la base d'Hérodote. On se demande d'ailleurs comment il est possible qu'Horapollon, qui apparemment faisait appel à Aristote à plusieurs reprises, peut se fonder uniquement sur l'affirmation d'Hérodote, qui est complètement fausse et qui a été reprise par la suite par Hélien et Pline. Ici, je n'ai pas trouvé de source égyptienne qui mentionne ce fait. Alors, on peut se demander sur quelle source il s'est appuyé ici. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Autre comportement du lion, il est sujet à la colère. Il en parle à deux reprises. Donc, toujours au livre 2, au chapitre 38, où il est question de la colère outrée, on en a déjà parlé, et aussi au chapitre 75. Nous avons vu l'importance des yeux chez le lion qui lui permettent d'être constamment en état de veille. C'est aussi par son regard que transparaît sa colère, ne serait-ce que par la couleur même de ses pupilles, que Horapollon qualifie d'enflammée. Notons ce fait dans l'expression qui qualifie la divinité léontocéphale Maès, qu'on a déjà vu auparavant, qui s'appelle Myos chez les Grecs. En effet, le groupe Maesa se traduit en général par lion terrible, mais il semble que cela fasse plutôt référence à son regard, et la présence du déterminatif de l'œil, comme on le voit en haut, peut renforcer cette idée. Cette fureur du lion est bien connue. Dans les inscriptions égyptiennes, on peut lire « Il est furieux dans l'île de la fureur »,« Lion terrible de fureur » ou « Lion en fureur ». Pour ce qui est de cette rage du lion que mentionne Horapollon et qui le conduirait à déchirer ses propres lionceaux, nous sommes confrontés au silence des sources antiques. Peut-être y a-t-il une référence à une fable d'Ésope où le lion, mis en rage par une mouche, se déchire lui-même les flancs. Pourtant, ce fait est avéré dans la nature, puisqu'on sait que le lion peut parfois déchiqueter ses propres lionceaux ou tuer les lions d'un lion rival afin de rendre les femelles de nouveau fécondables. Pour ce qui est de la robustesse des os du lion, à tel point que du feu en sortirait en les frottant l'un comme l'autre, ce fait est mentionné chez Aristote et repris par la suite chez Hélien. Cette nature enflammée explique que le félin soit sujet à la colère. Et pourtant, Horapollon nous explique que sa plus grande crainte est le feu. Il reprend ici une idée déjà mentionnée antérieurement, par exemple chez Homère, qui compare Achille à un lion qui craint des torches enflammées, comme le cite Aristote. Oppien nous dit même qu'il n'en supporte pas la vue et est obligé de cligner de l'œil. Si cette crainte du lion pour le feu est bien connue chez les Grecs et les Romains, nous n'en avons pas trouvé écho dans les sources égyptiennes. En effet, on sait que le lion crache ou lance du feu, mais aucune trace de lion qui en a peur. Pour ce qui est du lion malade, Horapollon fait référence au chapitre 76 du livre 2. Horapollon reprend ici les dires de plusieurs auteurs. Le fait de manger un singe servirait de remède dans trois cas. Chez Hélien, ce serait pour se purger après avoir trop mangé, ou bien pour lutter contre la vieillesse. On pense ici à un épisode que relate Hélien, pendant lequel le lion de la reine Bérénice se faisait lécher le visage quotidiennement pour en estomper les rides. A l'inverse, chez Pline, c'est en cas de manque d'appétit que le lion boit le sang d'une guenon. Tacien reprend cette idée dans son Oratio ad Graecos. Il connaissait donc les vertus curatives du singe sur le lion. Est-ce qu'on peut rapprocher ce fait de cette pratique d'automédication des singes qui savent se soigner en mangeant certaines plantes, cela peut être une explication. En tout cas, la source de Rapollon semble inconnue et je n'ai trouvé aucune information chez Aristote. On peut toutefois relever une réminiscence du conte de la Lointaine, où Tefnout, fille de Ré, qui a la forme d'une lionne, vivant dans le désert de Nubie, se livre à un véritable massacre. Ré, voulant ramener sa fille auprès de lui pour en utiliser sa violence contre ses propres ennemis, envoie Chou et Toth sous forme de babouins. Il décide de l'apaiser à l'aide de paroles et de formules magiques, ce qu'ils parviennent à faire. En conclusion, nous pouvons dire qu'Orapollon... J'ai oublié une image, voici une illustration. En conclusion, nous pouvons dire qu'Orapollon s'appuie plus sur une interprétation allégorique ou idéogrammatique du signe. Il se fait l'écho d'une tradition égyptienne concernant la symbolique du lion, qui est bien illustrée dans l'art égyptien ou la littérature, dont les auteurs grecs ou romains avaient bonne connaissance. De fait, Orapollon confirme cette place privilégiée qu'occupait le lion chez les Égyptiens dans de nombreux domaines. Par ailleurs, il mobilise des savoirs zoologiques, parfois fantaisistes, déjà proposés par Aristote ou encore Hélien. Preuve qu'il avait une connaissance de sources antérieures concernant la zoologie. Cependant, certaines de ces sources nous échappent encore, par exemple celle concernant le comportement du lion dévorant ses lionceaux ou celui du lion se guérissant en dévorant un singe. Il est difficile de savoir quelle source Rapollon a réellement mobilisé pour son traité. Il a probablement pu observer des monuments d'époque pharaonique ou ptolémaïque et il prouve qu'il a une connaissance de traités bien antérieure à lui. On peut donc se demander s'il avait réellement accès à des sources de première main ou s'il tenait ses connaissances de prêtres égyptiens déjà fortement hellénisés. Orapollon syncrétise par son traité des savoirs grecs, romains et égyptiens concernant le lion, savoir qui mérite de faire l'objet d'une étude à part entière. Je vous remercie.